À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Mona Ozouf. On me présente généralement soit comme historienne, soit comme philosophe. Je ne suis pas sûre que ces deux définitions me conviennent, mais je pense que ce sera plus clair à la fin de l'émission.
Quatrième épisode, Penser la Révolution. Bonsoir, bonjour Mona Ozouf.
Bonjour Caroline Brouet.
Pour ce quatrième temps de notre série À voix nue, j'aimerais qu'on revienne aujourd'hui sur le travail que vous avez mené aux côtés de François Furet pour un ouvrage qui a changé la façon, notre façon peut-être, de considérer la Révolution française et partant parler aussi des débuts de la République, puisque l'un ne va pas sans l'autre et c'est ce que nous verrons à la fin de cette quatrième émission. D'abord, c'est une double révolution. Une révolution française en soi, bien sûr, mais une double révolution personnelle aussi et historiographique. Parce qu'on vous a laissé, si je ne m'abuse, normalienne, agrégée de philo et jeune professeur au lycée de jeunes filles à Caen.
Oui.
Et on vous retrouve historienne aux côtés de François Furet. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé le sentiment que c'était peut-être plus facile. Je vais... pas me faire beaucoup d'amis parmi les historiens en disant ça sans doute, mais que c'était plus facile pour moi d'entrer dans un travail historique que dans un travail philosophique qui me paraissait toujours un peu au-delà de mes compétences. Donc il y a sûrement ça qui a joué. Le fait d'avoir écrit ce petit livre sur l'école pour commencer, à la suggestion d'ailleurs de Jacques, mon mari, m'avait donné un peu le goût d'écrire, ça m'a mis la main à l'ouvrage. Et j'ai d'ailleurs trouvé que j'aimais écrire. Donc ça, c'était quelque chose d'acquis. Et au moment de la Révolution, de l'agitation qui commençait à se faire autour du bicentenaire, j'ai écrit pour le débat, à la demande encore d'un ami, Pierre Norand, j'ai écrit un papier qui s'intitulait « Peut-on commémorer la Révolution française ?» C'est un papier qui a eu du succès, mais un succès négatif, qui a été mal pris par beaucoup de mes amis, du reste. Comment ça se fait ? Tu penses qu'on ne peut pas commémorer la Révolution française ? Bon, l'article était destiné, dans mon esprit, à montrer qu'on n'avait jamais pu commémorer le tout de la Révolution française, et que, par exemple, ce qui s'est passé au moment du centenaire, là, on en était au bicentenaire, mais au moment du centenaire, la même question s'était posée. Et dans le déroulé des événements révolutionnaires, on n'avait jamais pu dépasser Valmy. On fête, on commémore, on célèbre les premières dates de la Révolution, la fête de la Fédération, évidemment, mais aussi la nuit du 4 août, des événements de ce type. Mais on a beaucoup de mal ensuite à entrer dans les péripéties qui hachent le temps révolutionnaire et qui sépare les révolutionnaires en plusieurs factions. Et donc, le bel enthousiasme des débuts, l'aube radieuse, comme dit je crois Quinet, qui se lève sur la Révolution au début, le temps se gâte assez vite. Et donc, peut-on commémorer la Révolution française ? C'était dans mon esprit, on n'ira pas beaucoup plus loin. Par exemple, on ne célébrera pas la Terreur. On ne commémorera pas la Terreur. L'idée, c'était que la Terreur est incommémorable parce que la commémoration demande un assentiment public et une sorte de cohésion autour de l'événement qu'on commémore. Bref, donc cet article, qui a eu beaucoup d'ennemis, m'a fait un peu entrer dans le débat, m'a fait lire, m'a fait travailler quand même sur la Révolution française, à laquelle je ne connaissais pas grand-chose, et ça m'a beaucoup intéressé. Il y a même eu une sorte d'enthousiasme à choisir ce sujet. Et je crois que c'est un peu lié à la jeunesse, à la juvénilité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe dans la Révolution française ? Tout d'un coup, on se met à dire aux Français, mais pas seulement aux Français d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai peut-être, qu'on ne peut pas être contraint sans donner son assentiment intérieur. C'est-à-dire que la Révolution, c'est l'entrée dans un monde de la subjectivité et de la volonté. On ne peut pas contraindre les hommes si les hommes n'adhèrent pas à ce qu'on leur propose. Et donc, il y a quelque chose de formidable, parce que quand on a 20 ans, on croit fermement qu'on va inventer sa vie, qu'on va avoir une vie qui va ressembler à ses propres aspirations. Quand on vieillit, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de subi et de donné dans ce qu'on pensait choisi. Mais il y a quelque chose d'exaltant dans le choisi. Et la Révolution française, c'est ça.
Mais d'une certaine façon, c'est ce qui explique aussi que vous avez commencé à travailler sur la Révolution par la fête révolutionnaire, oui, oui, peut-être. Avant même de venir, oui, oui, au débat des années 80.
Oui, oui, bien sûr, j'ai commencé à travailler sur ce sujet parce que je cherchais, mais c'est toujours pareil, par manque de spécialité immédiate, je cherchais un sujet qui soit à la fois un sujet de psychologie collective, de sociologie, d'anthropologie. Et du coup, la fête, qui est quand même un événement extraordinaire, parce que ces hommes qui ont 1000 chats à fouetter, si j'ose dire, une guerre étrangère à mener, une guerre civile à gagner, ils se mettent en tête d'imaginer un système de fêtes, de rituels, qui enserre complètement la vie. Ils refont un calendrier, ils refont un espace. C'est une entreprise absolument étonnante. Et donc, il y a quelque chose là-dedans d'un départ à neuf dans l'existence, d'un recommencement matinal du monde. Quelque chose qui séduit quand on a 20 ans, quand on est jeune. Et donc, oui, c'est un sujet que j'ai embrassé avec enthousiasme.
Et donc, à ce moment-là, un peu plus tard, forte de cette expérience et de l'écriture de ce livre sur la fête révolutionnaire, vous voilà avec François Furet embarqué dans une entreprise immense, parce que le Dictionnaire critique de la Révolution, oui, française, c'est 5 volumes.
Et on a beaucoup travaillé.
Vous avez beaucoup travaillé. C'est François Furet qui est venu vous chercher ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Les seuls livres pour lesquels je n'ai pas eu besoin qu'on vienne me chercher, ce sont les livres qui concernent la littérature. Ce sont mes derniers livres. Mais tous les autres, c'est une sollicitation amicale, ou une idée, pourquoi tu ne ferais pas ça, etc.
Et vous n'avez pas tout de suite dit oui à François Furet ?
Oh non, j'étais très très réticente, parce que je connaissais François, qui disait toujours le vrai, mais qui pouvait dire aussi le vrai désagréable. Et je me suis dit, il est plus savant que moi, il est probablement plus doué aussi. Et du coup, je me mets dans un mauvais cas. Il va me dire que ça ne va pas, je vais en souffrir, je vais en être malheureuse, en rendre malheureux mon entourage, c'est pas la peine. Et donc j'ai dit à François, écoute, je pense que c'est très bien, c'est un très beau projet, mais je pense que la fin de notre amitié est contenue dans ce projet. Et là, il a eu la phrase qui m'a complètement désarmée et embarquée. Il m'a dit, ou alors ne le faisons pas. Et ce alors ne le faisons pas, comme je savais qu'il tenait au projet,
vous a convaincu de le faire.
Ça m'a complètement convaincu de le faire.
Et alors, c'était quoi, Mona Ouzouf, ce projet en question ? Quand il vous en a parlé, il vous a dit quoi ? Pourquoi ? Est-ce que déjà, il a employé le mot critique ? Au sens de quoi, critique, à ce moment-là ?
Au sens d'examen, tout simplement. Au sens d'examen, c'est-à-dire d'aborder la Révolution française sans la sorte de respect et de vénération qui entoure le sujet, et aussi la part d'investissement personnel qui est demandé, c'est-à-dire que on n'aborde pas la Révolution française comme on aborde les temps mérovingiens, par exemple. On ne demande pas à celui qui est en train d'écrire sur les temps mérovingiens de donner son opinion politique ou personnelle. Ça n'a pas beaucoup de sens. Pour la Révolution française, on vous demande de montrer patte blanche, rose ou rouge. Mais on vous demande de vous présenter d'abord pour savoir si vous êtes apte à parler de ce grand événement. Donc il y a quelque chose déjà de polémique, rien que dans le choix du sujet.
Et à ce moment-là, François Furet et vous-même, vous représentiez quoi d'un point de vue historien ?
Moi, je ne représentais rien du tout. Mais François était connu, et connu de façon dans les milieux canoniques de l'histoire de la Révolution française, de l'historiographie de la Révolution française, les milieux de la Sorbonne, etc., François était le diable.
Pourquoi ?
Parce qu'il ne voulait pas entrer dans la considération de la Révolution comme un bloc dont on ne peut rien détacher. C'est-à-dire qu'il faut tout prendre, il faut tout laisser ou tout prendre, mais il n'y a pas le choix. Si on fait l'histoire de la Révolution française, et si on est plutôt quand même favorable au grand événement ce que j'étais, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure montre que c'est un événement immense. C'est la réappropriation par les hommes de ce qui était jusque-là aux mains de Dieu. C'est un bouleversement total. Et donc, on est, quand on aborde ce sujet, et qu'on est plutôt dans la perspective de la...
Pas contre-révolutionnaire, vous voulez dire.
On n'est pas contre-révolutionnaire du tout. Mais, en fait, on passe pour l'être. Et c'est ce qui est arrivé à François, qui avait d'ailleurs le génie de fédérer des amitiés, mais de fédérer aussi des inimitiés.
Peut-être parce qu'il y avait eu des précédents. Il avait eu un premier assaut en 1965 avec Denis Richet.
Oui.
Il avait publié La Révolution française, dans laquelle tous les deux disaient que la terreur du comité de salut public était un dérapage, alors que jusqu'à présent, cette terreur était expliquée à la fois par les circonstances et par la guerre. Et puis il avait rebelote en 1971, dans un article cette fois où il était allé plus loin, il avait dénoncé un catéchisme révolutionnaire, une vulgate jacobino-marxiste.
Oui.
Et puis en 1978, dans Penser la Révolution française, là il affirmait que les événements révolutionnaires étaient imprévisibles, qu'ils étaient dictés par des individus plutôt portés par une idéologie que par les classes sociales. Et là ça renversait complètement...
Oui.
La façon de penser de la Révolution, c'est les prémices du dictionnaire critique, non ?
Oui, bien sûr. Et par ailleurs, ça traduit aussi une évolution de François. Le premier livre écrit avec Denis Richet est un livre très séduisant, qui était d'ailleurs presque un livre pour table de salon, qui était un livre d'images magnifique sur la Révolution française et avec un commentaire tout à fait savant, mais très classique. À l'époque, l'un et l'autre entraient dans l'idée d'une révolution qui est faite par la bourgeoisie. Mais le livre, il y avait quand même quelques aspects qui avaient chatouillé un peu l'esprit d'orthodoxie qui régnait à la Sorbonne, et on leur avait fait le procès d'écrire une histoire pour journalistes. Et du coup, ils ont compris là tous les deux, et François particulièrement, que... leur travail ne passerait pas, qu'il y aurait quelque chose qui serait impossible à considérer avec bienveillance, sûrement, mais même simplement respect universitaire, pour ce qu'ils feraient. Et le point effectivement névralgique, c'est la terreur. C'est-à-dire que la terreur a été très longtemps présentée avec une sorte de « ne que ». La terreur, ça n'est que. D'ailleurs, c'est un tic d'écriture. Dans l'histoire de la Révolution, je pense à un député qui s'appelle Garnier de Sainte et qui dit « La terreur n'est que le coup de vent qui débarrasse l'arbre de ses fruits véreux, mais qui conserve les fruits sains. » Autrement dit, c'est la terreur comme purge indispensable à la santé du corps social. Alors, sur cette interprétation, on fleurit mille et une possibilités de... ne pas regarder en face la terreur, qui est un phénomène épouvantable pour la Révolution elle-même, en raison de la contradiction qui s'ouvre entre l'aube radieuse dont je parlais tout à l'heure et les conséquences affreuses, la privation de liberté. Et donc il y a quelque chose qui, je crois, a animé d'un bout en bout la recherche autour du dictionnaire critique, c'est l'idée qu'il faut trouver une autre explication à la terreur, et l'explication de la terreur tient en grande partie dans la radicalité de la Révolution française dès le début, dès l'origine. Et regardez, il suffit de penser à une simple chose. Les Français ne sont pas les premiers à écrire une déclaration des droits. Les Américains l'ont fait avant eux. Mais que font les Américains quand ils déclarent les droits ? Ils veulent... rapatrier sur le sol de la colonie américaine les droits des Anglais, les libertés anglaises dont ils jouissaient avant l'exil en Amérique. Donc, c'est la déclaration des libertés primitives ou des droits primitifs des Anglais. Quand les Français se mettent, et on se demande, c'est toujours une énigme de la Révolution française, comment ça se fait que des gens qui sont convoqués à Versailles, aux États généraux, ils n'y sont pas depuis un mois, qui se mettent à rédiger une déclaration des droits, qui n'est pas une déclaration des droits des Français, mais une déclaration des droits de l'homme, en général, pour tout le monde. Et vous savez, il en reste encore des traces, parce que vous pouvez vous balader dans le monde entier avec une conférence sur la Révolution française et vous trouvez un auditoire, parce que ça a été présenté, à tort ou à raison, ça c'est autre chose, pour une révolution des droits de l'homme en général.
Bon, en général, de l'humain, quel qu'il soit. Sans les femmes, beaucoup à ce moment-là, mais enfin, on l'a intégré.
Les femmes y sont aussi.
Et les femmes y sont aussi, normalement.
Elles y sont, je vais vous dire pourquoi elles y sont. On a beaucoup glosé sur l'imposture qu'il y a à déclarer cette révolution des droits de l'homme alors que les femmes sont exclues du suffrage. Mais les femmes ont tout de suite compris la promesse qui était contenue là-dedans. Parce que ça voulait dire les droits de tout homme, quel qu'il soit, de la créature humaine la plus dénuée qui soit. C'est extraordinaire dans la Révolution française.
Enfin, l'âme de Gouges a quand même éprouvé le besoin d'écrire une déclaration des droits
oui,
de la femme.
Absolument. Non, non, mais absolument. N'empêche que, comment vous dire, l'universel, quand on fait une déclaration universelle des droits de l'homme, même si c'est un universel masculin, on l'a beaucoup dit après, tout universel est universalisable. Il y a quelque chose d'universalisant dans la promesse, et les femmes s'en sont très vite emparées. Ça a été aussi une arme du combat féminin. Donc je crois que ça n'ôte pas quelque chose à la gloire de ces délégués qui arrivent aux États généraux et qui, tout d'un coup, se mettent à légiférer pour l'humanité entière. Mais il y a des conséquences de cette radicalité, parce que du coup, on se met à rêver à la création d'un homme nouveau, et on apprend très vite qu'on ne peut créer un homme nouveau que par la force, par la contrainte.
Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que ce deuxième temps de la Révolution, la terreur, le jacobinisme, disons, est à l'origine, ou qu'il y a un trait d'union, un lien entre ce jacobinisme, cette terreur, et les dérives totalitaires du XXe siècle ?
On peut le faire à condition de ne pas l'établir comme un lien causal. Mais il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que dès que l'on se met à vouloir créer de toutes pièces une humanité nouvelle, on se heurte immédiatement à l'inertie, à la paresse, aux résistances de toutes sortes, et du coup on est tenté d'utiliser la contrainte. Et là je crois que ça ouvre dans la révolution elle-même un immense débat entre par exemple les Girondins et les Jacobins. Il y a un petit échange entre, je crois que c'est Saint-Just, oui, et un Girondin que personne ne connaît, mais qui est un homme fort intéressant, qui s'appelle Bancal des Issards. Et Saint-Just dit « Tout est neuf en révolution. » Et par conséquent, tout ce qui n'est pas neuf est pernicieux. La révolution se propose une nouveauté absolue, un recommencement absolu. Et Bancal des Issards lui répond « Oui, oui, tout est neuf en révolution, excepté les passions des hommes. Et les passions des hommes, dit-il, sont les mêmes dans tous les pays et dans tous les siècles. » Quelque chose comme ça. Et donc c'est un dialogue très intéressant parce que ça montre le fond même de la radicalité révolutionnaire. Cette radicalité qui se montre dès le début, ensuite elle a des conséquences, vers un régime d'autorité. On ne peut pas faire ça, cette espèce de transformation absolue, sans y mettre, si j'ose dire, les moyens, et les moyens de la contrainte.
Mona Ozouf, comment a été accueilli ce dictionnaire critique ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats ? Est-ce qu'il a été critiqué à son tour ?
Oui, il y a eu un accueil qui pouvait être polémique dans certains pays, mais il y a eu autour du dictionnaire, d'abord il y a eu beaucoup de traductions étrangères, énormément, et il y a eu, oui, un très grand débat. Pas tendre, hein, pas forcément tendre, très agité.
Politique, débat politique.
Politique,
historien et politique.
Idéologique, historique, philosophique, parce que ça touche à tous les grands problèmes.
Il y a un article qui est apparu en 2023, début de l'année 2023, du magazine Marianne, si je ne m'abuse, qui parlait de l'héritage de François Furet. Bon, vous n'y êtes pas, hein, mais on parle beaucoup du dictionnaire critique de la Révolution française, dans lequel, pour le dire schématiquement, l'auteur écrit la doxa Furet a remplacé la doxa d'avant Furet. Comme si, finalement, cette façon de considérer la Révolution avait pris le dessus de façon dominante. Qu'est-ce que vous en pensez ?
L'article n'est pas très bienveillant pour notre entreprise, il faut bien dire. Donc, je n'en pense pas un bien fou. Je pense qu'il y a surtout quelque chose qui est frappant. Quand on dit qu'une doxa a remplacé une autre doxa, et d'ailleurs qu'on dit qu'une subjectivité a remplacé une autre subjectivité, on met de côté quand même la question fondamentale qui est la question de la vérité. Et la vérité sur la terreur, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est plus approchée ? Je ne dis pas atteinte, mais est-ce qu'on l'approche plus par la problématique Furet que par la problématique Vauvel Soboul pour aller vite ? Tout ça est un peu caricatural.
Qui était l'étonnant de la thèse plus marxiste et jacobine de
oui,
la Sorbonne.
Oui, plus jacobine que marxiste, d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus vrai ? Or, je pense qu'après avoir traversé les tragédies du XXe siècle et être peut-être au prologue d'une autre tragédie ou d'autres tragédies, je pense quand même que l'idée que la radicalité est meurtrière a plus de chances d'être vraie que la thèse inverse. Et du coup, je pense qu'on évacue complètement en parlant de subjectivité qui se heurte. C'était vrai aussi, parce que bien entendu, la passion s'en est mêlée, la passion polémique s'en est mêlée. Mais je pense qu'on atteint quand même plus la vérité de nos sociétés et la dérive possible de la démocratie vers le despotisme, bon, que nous redoutons tous aujourd'hui. Il y a plus de vérité dans le dictionnaire critique que dans le dictionnaire Soboul. Voilà, pour aller très vite, parce que dans le dictionnaire Soboul, entreprise collective aussi, il y a évidemment beaucoup d'articles intéressants.
C'était intéressant pour vous comme expérience, Mona Ozouf, aussi du point de vue de la philosophe, en tous les cas de la penseuse que vous êtes. Puisque le travail que vous avez fait en historienne, vous l'avez prolongé en philosophe. Vous êtes revenu à la philosophie par la Révolution en réfléchissant à la République, puisque les identités républicaines, les identités de la France ont été un travail important pour vous. Vous avez réuni un certain nombre de ces textes et vous en avez écrit d'autres dans un quarto Gallimard très important qui s'intitule « De Révolution en République, les chemins de la France ». Est-ce que penser la Révolution, c'est penser la République des origines à aujourd'hui ?
Bien sûr, là il y a une filiation qu'il n'est pas possible de ne pas voir. Tout simplement, première chose, c'est que cette République qui s'installe de façon pérenne après 1870, est une république qui se veut une et indivisible. Or, d'où vient cette unité ? D'où vient cette indivisibilité ? Ça vient de très loin dans l'histoire française. Ça vient de l'Ancien Régime aussi, puisque en France, c'est l'État qui a constitué la nation. Et donc, dès le début, dans la monarchie, il y a cette volonté d'unité, qui est d'ailleurs représentée uniquement par la personne charnelle du roi, qui est chargée de figurer l'unité d'une nation, qui est une nation extraordinairement divisée, dans ses, même juridiquement divisée, géographiquement divisée, etc. Et il se trouve que la Révolution renchérit sur cette volonté d'unité à tout prix. D'autant plus qu'en décapitant le roi, on s'est privé de l'unité charnelle de la nation. Et donc il faut remplacer ce qu'on vient d'éliminer, qui ne va pas sans quelques peurs. Il faut remplacer la personne du roi par une unité comparable. D'où la volonté, même presque la préoccupation frénétique d'unité sous la Révolution française. Le débat sur les deux chambres se termine par l'adoption d'une chambre unique, unité de la représentation. Le débat sur le territoire, sur le découpage départemental, change la diversité des provinces au profit d'une unité neutre qui est le département et qui est pensé sur le mode de l'unité. C'est vrai de l'architecture des villes. Il y a eu un grand débat, par exemple, pour abattre les clochers, pour qu'il n'y ait pas de différence dans les habitations, que tout le monde se mette à la hauteur des clochers, etc., etc. Les exemples abondent pour montrer à quel point on a poussé cette passion de l'unité et de l'unanimité dans la République, héritée de la Révolution française. Et donc, on peut dire que la République en France a hérité de cette passion longue d'unanimité et qu'elle a eu un certain mal et qu'elle a toujours un certain mal à accepter la diversité. Là viennent quelques-uns des problèmes que nous rencontrons constamment. Faut-il accepter les langues régionales à l'école ? Faut-il donner à l'école un enseignement unifié de l'histoire de France ? Est-ce que l'histoire de France est un bon moyen de cohésion nationale, etc., etc. Tous les débats de la République, au fond, sont hérités de la Révolution française.
Et pour vous, ça devait être quelque chose quand même, Naozouf, oui. Vous qui êtes plutôt girondine que jacobine, disons, qui avez grandi dans l'anti-jacobinisme, finalement, décider d'étudier la Révolution française, c'était un peu tourner le dos à l'héritage de votre enfance.
C'était une contradiction de plus, oui. C'est vrai que c'était assez contradictoire. Et ça s'explique, ça s'explique un peu par la volonté quand même de rendre justice ou au moins d'expliquer ou de comprendre pourquoi cette passion de l'unanimité s'est introduite en France. Elle vient aussi de la peur, de l'éclatement, du morcellement. Parce qu'après tout, on peut plaider que la France est une nation plus difficile à unifier que d'autres nations. Il y a toujours eu les Armagnacs contre les Bourguignons, enfin que sais-je, il y a toujours eu des... La France est un pays profondément divisé, et même sur le plan géographique, c'est un pays où on peut à la fois trouver une Toscane en Provence, une Espagne dans le sud-ouest.
Et l'Écosse en Bretagne.
Voilà. Et donc, il faut mettre tout ça ensemble. Et ça ne se fait souvent que par la contrainte.
En même temps, ce n'est pas forcément tourner le dos à l'héritage, hein, c'est essayer de le comprendre, cet
oui,
héritage,
bien sûr,
d'où
bien
vous
sûr.
Venez et comprendre qui
non,
vous êtes.
Non, mais bien
au
sûr,
final,
puis on peut imaginer qu'il y a des moyens de vivre à la fois la différence et l'égalité.
Merci, Mona Ozouf. On se retrouve pour la dernière. On parlera de votre vraie patrie, les livres.
D'accord.
À demain. C'était À Voix Nue. Chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Yvan Turc, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.